We are climbing Jacob ladder. We are climbing Jacob's ladder. We are climbing Jacob's ladder, soldier of the cross, kneeling, Jacob, Raquin, Lalion, kneeling, Jacob, Raquin, Ilalion, Miele, Jacob, Raquin, Lalion, Titu, Gaston. Sous l'échelle de Jacob dans notre vie. L'échelle de Jacob dans notre vie. Mais nous pourrons l'intituler encore notre échelle en Jésus-Christ. La chanson que je viens de chanter, je l'ai chantée. Je l'ai apprise, ça fait plus d'une cinquantaine d'années. C'était plus de 55 ans, je ne sais pas. En classe de sixième. Quand j'ai reçu ce message avec cette chanson, en plus, j'ai réalisé que cette chanson, je ne l'ai pas entendue, je ne l'ai pas écoutée, je ne sais pas, dans les églises. Ce n'est pas une chanson qui se chante dans les églises, par contre, je n'ai pas écouté ça déjà. Entendu ça dans une église. Mais cela ne veut pas dire que la chanson n'existe pas. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas certain. La chanson dit, nous sommes en train de monter l'échelle de Jacob. Les soldats de la croix. Voici la parole. Et je voudrais aujourd'hui que chacun d'entre nous élève la voix pour bénir ceux qui ont vécu, qui ont laissé avec Dieu une histoire, ceux qui ont découvert les écrits, ce qui a pu être écrit et ceux qui ont compilé les écrits et ceux qui ont reçu de Dieu des messages pour expliquer les écrits, les révélations de Dieu. Élevons la voix, que ce soit par des chansons, que ce soit par des prédications, que ce soit juste par des messages qui ont été livrés. Disons merci à Dieu qui, dès le temps ancien, nous connaissait et a été avec nous, qui a préparé la voie pour nous afin que nous aussi nous puissions dire aujourd'hui que nous sommes fils de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie, pour le Dieu qu'il est dans notre vie, pour le fait qu'il a été Dieu à la surface des eaux sur la terre, dont l'esprit se mouvait à la surface de l'eau sur la terre, sans que rien ne soit vivant jusqu'à ce qu'il décide de faire tout ce qui est vivant, les astres et autres, et que nous aussi, nous avons été créés. Nous remercions Dieu de ce qu'il a rencontré des hommes comme Abraham, Isaac, Jacob, de ce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Nous remercions Dieu de ce que aujourd'hui nous pouvons vivre. Merci au Seigneur qui a laissé des messages qui ne sont pas les plus longs, mais qui sont les messages les plus... qui sont les messages les plus... qui résument la vie du chrétien. Et nous allons lire maintenant ce que dit la parole de Dieu. Il s'agit de deux enfants qui sont nés d'un père, qui est le fils de la promesse, qui s'appelle Isaac. Ésaü et Jacob. Et pour tous ceux qui observent la vie, Dieu montre toujours deux faces de la vie. Nous qui sommes même des hommes, nous sommes un volume ambulant, mais il n'y a personne qui peut regarder son dos. Et c'est un autre qui regarde notre dos qui nous dit, ou c'est avec un miroir, même deux miroirs, que nous pourrons difficilement regarder le dos. Et donc, ce qui veut dire que dans la parole de Dieu, une chose est vraie et une chose paraît cachée. Dans la parole de Dieu, une chose est toujours claire et une chose paraît sombre. Et il faut que Dieu te dise ce qui est vraiment la réalité pour que tu saches où se trouve la vérité. Parce que à Dieu appartiennent la lumière et les ténèbres. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il fait avec les ténèbres, ce qu'il fait avec la lumière. Il s'agit, comme je le disais, de deux enfants nés de la même mère. Qui ont été conçus le même jour, nés de la même mère. Il s'agit de deux enfants qui ont été élevés avec le cœur des hommes et non avec le cœur de Dieu. Mais il s'agit aussi de deux enfants dont un a été choisi par Dieu et a toute son histoire. Et la personne à qui Dieu a parlé concernant cet enfant, c'est la mère. La mère savait que Jacob était réservé par Dieu. Et la parole de Dieu dit que la mère passait cette parole dans son cœur. Mais pour ne pas choquer la maison, la mère n'en a pas parlé, mais savait ce que Dieu ferait. Vous voyez, ce n'est pas facile parfois de dire aux enfants, à un enfant, ou à un foyer, à une famille, ce que Dieu dit. Et parfois, tu risques même de faire pécher ta famille, ton enfant, tes membres de famille, parce que si la personne prend ça à la légère, tu ne sais pas quelle sera la conséquence. Et la mère de Jacob faisait passer ça dans son cœur. Donc Jacob n'était pas un homme qui avait une vision. Ce n'était pas quelqu'un qui savait vraiment pourquoi il était là dans la vie. C'était un homme à la maison. À la limite, c'était un opportuniste qui pourrait profiter des occasions. Et jusqu'à ce que le père décide pour la postérité, pour les générations à venir, de bénir un des enfants et pour lui, l'aîné, c'était Esau. Et donc, Isaac aussi ne pourrait pas mourir sans passer à son fils la volonté de Dieu. Isaac a donc, je disais donc que Isaac a bien fait son choix et a demandé à son fils aîné de lui faire à manger pour qu'il le bénisse et de lui trouver un gibier comme il l'aime et de lui faire une bonne nourriture. Isaac n'a même pas demandé à Esau d'aller trouver le gibier pour que sa mère lui fasse la nourriture. Il a demandé à Esau lui-même de lui faire la nourriture. Mais le dessein de Dieu était autre chose. Au point où cette affaire, comme vous la connaissez, a créé un différend entre Esau, très mécontent, qui avait décidé de tuer Jacob après la mort de leur père. Et la mère de Jacob a demandé à Jacob d'aller chez Laban, son frère, et d'aller continuer sa vie là-bas en attendant que le cœur de son frère se calme. Et nous sommes dans la vie, nous vivons dans les tumultes et nous voyons parfois que dans les tumultes, Dieu n'est pas présent. Quand Dieu crée des situations, ce qui fait de nous de mauvais adorateurs de Dieu, c'est que nous croyons que ces situations sont difficiles et que nous ne pouvons pas. Et donc, nous, au lieu d'affronter la situation, de dire, bon, j'avance, que Dieu soit loué, c'est à lui le dernier mot. Nous attendons, nous pensons qu'il y a des tumultes et nous ne voulons pas accepter que Dieu est dans les vents forts et que Dieu nous oppose parfois. Donc, c'était dans ces tumultes, ces vents forts que Jacob avançait vers Laban. C'est au cours de cette marche, en fuyant l'adversité, que Jacob, fatigué le soir, s'est couché. Et après, a voulu dormir. Et dans son sommeil, il a eu une vision. Il a eu un songe. Genèse 28. Versets 10 à 22. Genèse 8, verset 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne te t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il s'est dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa au monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Je ne vais pas tout lire. L'échelle de Jacob dans notre vie, ou bien notre échelle en Jésus-Christ. Voici une petite histoire. En réalité, cette histoire n'a rien, n'a pas de relation. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, ça n'a pas de relation linéaire, logique, linéaire avec ce voyage que Jacob était en train de faire. Jacob était en train de régler un problème et puis un autre problème s'est ajouté au problème et qu'il faisait nu et il devait dormir dans la brousse. Il faut du courage pour dormir dans la brousse. Je ne sais pas si nous essayons de nous mettre à la place des gens dont on parle. Je ne sais pas. Un jeune homme qui quitte, qui fait seul un voyage et arrive dans la brousse, il n'a pas de choix. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a de la, une torche, je ne sais pas. Il fait son, il peut pas poursuivre son chemin. Il est obligé de dormir quelque part sur ce chemin. En tout cas, de s'arrêter parce qu'il ne peut plus voir le chemin. Pour ceux qui veulent avoir, voir Dieu sur les chemins où il n'y a aucun danger, pour eux, c'est-à-dire, c'est nous qui pensons qu'il y a des dangers. Mais Dieu sait qu'il n'y a pas de danger là. Et c'est pourquoi il a fait arrêter Jacob là-bas. Pour nous qui voulons voir Dieu là où il n'y a aucun problème, nous pensons que tout est bien comme nous le voulons, Dieu n'est pas toujours là où nous le cherchons. Et pour nous qui voulons que Dieu se présente et Dieu fasse comme c'est dit, Et quelque part dans ma culture, dans la Bible ou quoi, Dieu a pour chacun un destin. Il a pour chacun un dessein. Sur cette voie, avec qui était pleine de dangers, Dieu s'est montré à Jacob. Et j'avais prêché un jour ici, une nuit ici, à une veillée, sur ce passage. Et j'avais dit que Dieu nous aide à retourner à la maison. Et je crois que beaucoup de gens ont mal compris le message. Mais je ne suis plus revenu sur le message. Beaucoup de gens avaient compris qu'il s'agissait de retourner dans la maison de leur père ou de leur mère ou de leur famille ou de je ne sais quoi. Je remercie Dieu de ce qu'il me ramène ce passage aujourd'hui. Il s'agit de retourner vers Dieu que les hommes ont perdu. Il s'agit de retourner vers le Père que nous avons perdu. Il s'agit de retourner vers Jésus-Christ. Il s'agit de retourner au royaume des cieux. Jacob a vu une échelle. C'était une vision unique dans la Bible. Je glorifie Dieu, je loue Dieu de ce qu'il me fait grâce de certaines choses spéciales. Parce qu'une fois, il m'a montré la même chose. Mais je n'en parle pas. Et l'échelle de Jacob dans notre vie, dans l'ombre, dans la vision, c'était Jacob à qui Dieu transférait, lisez bien la bénédiction, ce que Dieu a dit à Jacob. Ça ressemble à ce que Dieu a dit à Abraham. Isaac n'a pas entendu ça. Dieu n'a pas parlé de ça à Isaac. C'est à Jacob que Dieu a dit ça. Et vous verrez qu'à partir de Jacob, on parle des 12 tribus d'Israël et il y a plus, on parle même des trônes, des 12 trônes d'Israël. Et Jésus-Christ dira même que ses disciples seront assis sur 12 trônes pour juger avec lui. Et donc, c'est à partir de Jacob que Dieu a définitivement scellé la promesse. Et donc, Dieu devait montrer à Jacob quel est le secret qui devait exister entre lui et Jacob. Quelle est la stratégie, la façon de faire qui devait exister? Comment la vie devait se poursuivre pour toujours? Dieu a donc montrer à Jacob un lien qui est une échelle entre le lieu de Jacob et le lieu où était Jacob et le lieu où était Dieu. Et des anges qui allaient et qui revenaient. Qui allaient et qui revenaient. Dieu montrait par cette allégorie, par cette voie, Dieu disait à Jacob par cette voie que désormais, maintenant que c'est conclu et que c'est par toi que tout doit arriver pour le monde entier, sache que entre toi et moi, il doit avoir un passage. Mais pas n'importe quel passage, un passage qui te fait monter petit à petit vers moi. Et entre toi et moi, il y aura des messagers. Il y aura toujours un messager qui viendra à toi, qui reviendra chez moi, qui viendra à toi, qui reviendra chez moi. C'était l'allégorie du Saint-Esprit qui va, qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu et qui prend même nos besoins que nous ne connaissons pas et qui les présente à Dieu. Les anges qui étaient présents sur le, qui allaient, qui revenaient, ne disaient rien. Mais Dieu a fait voir à Jacob une échelle qui montait, qui était sur le sol chez Jacob et qui montait jusqu'au ciel devant Dieu. Et les anges allaient et revenaient. Après cette vision de Jacob, quand Israël a péché et que Israël a été puni par Dieu avec le serpent brûlant, Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain que tu élèveras, afin que quiconque mordu par un serpent a la volonté de lever ses yeux pour voir le serpent soit guéri. Dieu n'obligera personne à voir le serpent brûlant. Si tu considères que le serpent, c'est Satan, c'est ton problème. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu dit, c'est le jour où les hommes, l'homme a connu le bien et le mal, que Dieu l'a séparé de son royaume. N'oubliez pas Moïse. Lorsque Dieu a voulu sauver son peuple, lorsqu'il a voulu le sortir d'Égypte, le bâton de Moïse, Dieu l'a transformé en un gros serpent, en un serpent. Pas parce que Satan n'avait pas le pouvoir de transformer aussi le bois en serpent. Mais ce que Dieu a fait, c'est que pour pouvoir, c'est que l'ennemi, il faut l'attaquer sur son terrain. C'est sur son terrain qu'il faut l'attaquer. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir sur ton terrain. Non. C'est sur son terrain qu'il faut l'attaquer. Et donc, ces serpents qui étaient les grands pouvoirs de création des Égyptiens, Dieu a voulu d'abord que le serpent, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait nommer un certain serpent aussi Satan. Mais le serpent de Dieu a avalé tous les serpents de Pharaon. Si tu veux regarder, si tu acceptes, si tu es mordu par le serpent, et que tu acceptes de regarder le serpent, si tu es mordu, si tu as un problème, toi tu crois que c'est ça qui te crée le problème. Si tu acceptes de voir le problème, tu es délivré. Si tu dis non, comment? Ce serpent méchant-là, comment je peux encore passer mon temps? Non, ça me fait peur. Non, je ne peux pas. Non, ça m'énerve. Tu ne verras jamais, tu ne lèveras jamais la tête. Dieu ne te permettra jamais d'être, d'avoir la vie. Et cette vie que Dieu a donnée dans le désert n'était pas la vie éternelle. Mais c'était une allégorie pour dire, quel que soit ce que je te dis, si tu acceptes de lever la tête pour voir ce que je te dis, pour me voir, si tu es d'accord avec moi, lève la tête. C'est-à-dire, lève la tête d'abord. Fais ce que je te dis. Si le jour où tu accepteras de lever la tête, de faire la volonté de Dieu, alors tu auras la vie. Tant que tu auras la tête baissée, soi-disant que non, le serpent est dangereux. Non, le serpent n'est pas bon à voir. Non, il m'a énervé. Tu n'auras pas la vie. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé de regarder le serpent d'ailleurs. Cette allégorie est une continuité de l'allégorie de l'échelle de Jacob qui voyait Dieu en haut et Dieu qui a établi une voie entre une échelle, un passage entre Dieu et les hommes. Et Jacob, avec le Saint-Esprit qui était représenté par les anges qui montaient et descendaient. Dans Jean, Jésus-Christ, dans Jean 3, Jésus-Christ a encore insister sur cette parole. Et donc, je vous la lis. Jean 3, 14 et 15. Regardez tout simplement le lien qui est fait entre deux choses. Si ce n'était pas dans la Bible et que je vous disais ce matin que Dieu m'a révélé que comme le serpent peut être, Dieu peut passer par un serpent pour me sauver, vous allez me dire que ce n'est pas, que vous ne croyez pas. Et comme Jean 3, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelle comparaison! Jésus-Christ n'a pas trouvé d'autres messages, d'autres paroles dans la Bible. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, la bonne chose que Moïse a faite en élevant le serpent doit arriver aussi dans ma vie. Si un pasteur prêche à l'église aujourd'hui, il dit, soyez élevés comme le serpent. Si le pasteur avait fermé les yeux, quand il va ouvrir les yeux, il va s'arrêter d'un coup pour se dire, où sont partis ces gens? Si vous voulez être de Dieu, c'est-à-dire, je veux être mécanicien. Et il dit que je ne veux pas être taché par lui. Mais je veux être mécanicien quand même. Je veux être mécanicien et je dis que je ne veux pas entendre le bruit des métaux. Je veux être mécanicien. Je dis que non, moi, je n'ai pas la force pour desserrer les égouts. Je veux être mécanicien. Je dis, je ne peux pas me coucher sous un véhicule. Mais je dis que j'aime vraiment ce métier. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Ce sont les règles de la mécanique auto. Il y a des dangers dedans. Il y a comment on le dit, du don de soi là-dedans. Mais quand tu as fini, quand tu as suivi toutes les règles, tu vois là les merveilles, ce que tu viens de créer. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Avec Moïse, c'était la vie simple. Mais maintenant, avec moi, c'est la vie éternelle. Comme Moïse. Si quelqu'un avait reçu, si vous étiez venu ce matin que je vous ai dit, que je vous dis que j'ai reçu un songe, une vision, que il y avait un serpent et que maintenant Dieu dit que nous regardions le serpent, et je crois que si j'ai la chance, quelqu'un va me passer un coup de fil après quelques semaines pour voir si on est à la maison, si on est là. Vous allez disparaître. Mes amis, ou vous voulez suivre, nous voulons suivre Dieu, ou nous ne voulons pas suivre Dieu. L'échelle de Jacob dans notre vie, notre échelle de Jésus-Christ. Pour avoir notre échelle, Jésus-Christ crée des situations. Si la situation des sceaux et de Jacob n'avait pas été créée, Dieu n'aurait pas pu séparer Jacob des sceaux pour lui montrer le secret de la relation qu'il y aura entre Jacob, sa progéniture et Dieu. Bien que Dieu ait montré cette façon, cette échelle à Jacob, cela ne veut pas dire que Jacob n'a pas eu des difficultés. Il est allé, il a voulu prendre une femme, finalement il a pris quatre femmes, des enfants, il a travaillé pour son oncle et son beau-père, il croyait que son oncle le trichait dans le sens des hommes. Mais lui il a dit plus tard qu'il a passé ce fleuve avec un bâton. Le voilà maintenant qui revient avec tout un peuple et des biens. Il n'avait rien en allant chez son oncle. Quand tu as rencontré Dieu, tu le rencontreras avec ton bâton. Mais la voie de Dieu n'est pas linéaire comme toi tu le penses. Dieu crée des situations que toi tu juges malsaines parfois, mauvaises, belles, saines, et qui te permettent d'avancer dans la vie. C'est à la fin que tu te rends compte que, ah, Dieu est merveilleux. L'échelle de Jésus-Christ, notre échelle en Jésus-Christ. Il y a des moments où tu peux, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu peux croire même. Tu te poses la question de savoir si vraiment Dieu est bon et s'il existe. S'il existe, est-ce qu'il est bon? Tout simplement parce que notre façon de voir n'est pas la façon de voir de Dieu. L'échelle de Jacob dans notre vie, notre échelle en Jésus-Christ. Ce que l'échelle, la vision de l'échelle nous dit, est très simple. Il ne peut pas avoir de peuple de Dieu, d'homme de Dieu, de femme de Dieu, de je ne sais pas, de Dieu, qui ne soit pas attaché à Dieu, qui n'écoute pas Dieu, qui ne voit pas les choses comme Dieu les voit, qui n'a pas de relation étroite avec Dieu, qui ne parle pas avec Dieu, qui ne reçoit pas de Dieu, qui ne pose pas de questions à Dieu. Je vous lis 2 Chroniques 18, verset 4. Il s'agissait de deux rois qui viennent de la progéniture de qui viennent de la progéniture de Jacob, qui a vu l'échelle. Achab, roi d'Israël, parce qu'entre-temps, Israël est devenu la partie qui ne concernait plus Juda, de qui sortirait Jésus-Christ. Et de Josaphat, roi de Juda. Josaphat est marié à la fille d'Akab. Donc, vous voyez que Josaphat, son beau-père ne peut pas lui demander quelque chose qu'il refuse. Alors, il y avait une guerre avec les Syriens. Vous connaissez la Syrie, non? Il y a encore guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui, non? Entre Israël et la Syrie. Il y avait une guerre entre Israël et les Syriens. Alors, Achab, lui, il avait de faux prophètes en nombre. Mais son beau-fils lui a dit, mais consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole. Consulte maintenant le Saint-Esprit. Consulte maintenant Dieu. Consulte maintenant la parole de l'Éternel. Établis, démarre maintenant la montée et la descente des anges entre Dieu et nous, pour que nous sachions réellement où nous allons. Mais Akab n'a pas cru avoir un Dieu qu'on peut consulter comme cela. Vous connaissez l'histoire. Akab a reçu un coup mortel dans cette guerre. Il est mort. Les gens ont failli confondre même Akab, qui est le roi qui devait amener les gens à la guerre. Lui-même s'est dissimulé, a exposé Josaphat. Mais Josaphat n'a pas été tué. Mes amis, si tu n'as pas consulté Dieu, tu peux prendre toutes les dispositions avec des fortifications. La parole de Dieu dit que même une flèche tirée, un fusil tiré au hasard va te chercher. Si c'est Dieu, la flèche aura une tête chercheuse. Si c'est Dieu, si Dieu veut t'atteindre, tu peux prendre les meilleurs ingénieurs pour faire les meilleures fortifications en béton. C'est le béton même qui va éclater, qui va te craser. Mais si tu as consulté Dieu et que Dieu, si Dieu te dit Et c'est là aussi le problème de notre échelle. Et parce que nous avons oublié que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour nous dire comment ça se passera. C'est une parole qui vient, qu'on vous annonce. Ça peut être vous-même directement. N'oubliez pas que Dieu a parlé directement à Jacob. Mais cela n'a pas manqué que Dieu, Jacob a vu aussi des anges allant et revenant. Et donc, il peut arriver que toi, à qui on parle pour aller dire à quelqu'un, toi-même, tu ne crois pas. Ou bien tu as peur. Tu crois, mais tu as peur. Et la personne à qui tu dis ne crois pas ou a peur. Voici les problèmes qui s'attachent à l'échelle de Jacob. Jacob a oublié l'échelle même au cours de sa vie avec son oncle. Il a oublié. Il a fait une promesse. C'est Dieu plutôt qui est revenu lui dire, je suis le Dieu de Bethel. C'est Dieu qui est revenu lui dire, je suis le Dieu de Bethel. C'est-à-dire que Jacob ne savait pas que Dieu était constant dans sa vie. Il pensait que Dieu était parti. Je ne sais pas là où les gens pensent que Dieu va. Peut-être qu'il va marcher, il va en voyage, il part en voyage. Dieu, pour nous les chrétiens, est constant dans notre vie. Et si nous ne voulons pas que cette échelle soit toujours entre Dieu et nous, et que nous refusons, nous faisons notre volonté. Beaucoup de gens, Dieu leur a parlé, mais ils ne veulent pas avancer. Ou bien Dieu parle à des gens. Le message est clair. On te dit, voilà ce que tu dois faire. Et ils disent, non, ils restent là à prier. Parce qu'ils veulent que Dieu revienne à leur volonté. J'ai ma volonté. Et Dieu vient avec sa volonté qui est contre ce que moi je pensais être le bien pour moi. Et après, je commence par prier Dieu pour qu'il change ce qu'il a dit. Ça détruit l'échelle de Jacob dans notre vie, notre échelle en Jésus-Christ. Il faut que tout chrétien apprenne à avoir entre Dieu et lui le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui revient à nous avec les solutions de Dieu et non notre solution. C'est parce que nous voulons que le Saint-Esprit revienne avec notre solution que nous passons beaucoup de temps à prier. Tout le temps, nous voulons que Dieu revienne, le Saint-Esprit revienne avec notre solution. Ah non. Non, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas comme ça. Non. Et ainsi, puisque nous voulons que Dieu dise ce que nous pensons, ça devient destructeur. C'est destructeur. C'est pas bon. Dieu ne viendra pas s'aligner. Je ne sais pas. Dieu ne viendra pas s'aligner sur notre volonté. Je ne dis pas que si nous avons une volonté, Dieu viendra toujours contre la volonté. Mais quand Dieu t'a déjà parlé de façon claire, ne cherche pas, en cherchant, en priant, tu provoques ce qu'on appelle la colère de Dieu. Il peut se taire pendant un temps. Mais quand sa colère va éclater, je vous en prie, ce ne sera pas maîtrisable. Ce ne sont pas les multiplications de veillées, de prières, de jeûnes, de chaînes de prières, je ne sais pas de quoi, de prières, qui vont donner quelque chose. Vous pouvez rassembler tous ceux qui s'appellent prophètes du monde. Ça ne changera rien. Même si tous les hommes devenaient prophètes pour toi, ça ne changera rien. Même si on ouvrait toutes les églises jour et nuit pour présenter ton cas à Dieu, ça ne donnera rien. La volonté de Dieu. N'est pas négociable. Vous pouvez créer association, parti politique, je ne sais pas, comité de quoi, commission de quoi, aller à des négociations. Vous pouvez créer même des églises pour faire des négociations. C'est votre problème. Mais la parole de Dieu ne se négocie pas. Consulte la parole de Dieu. C'est ce que Josaphat a dit. Et quand la parole de Dieu a été consultée, la vérité a été dite. C'est un seul prophète contre 400 prophètes. La vérité de Dieu, quand elle a été dite. Mais le roi n'a pas voulu suivre cette vérité. Malheureusement, il n'est pas revenu pour tirer les conclusions de sa désobéissance. Que Dieu vous bénisse. Vous qui vous rapprochez de Dieu et qui vous maintenez dans l'esprit de Bethel, de Luz, où l'échelle est toujours établie entre vous et Dieu, avec les anges montant, descendant, et Dieu qui parle. Que Dieu nous bénisse, nous tous qui nous comportons ainsi. Nous qui écoutons la parole de Dieu et qui la gardons et qui la pratiquons. Vous ne pouvez pas dire Dieu a parlé à Dieu et à Jacob. Donc, Dieu ne peut plus me parler à moi. Dieu parle à chacun et lui dit quelle est la voie qu'il doit suivre. Si nous agissons ainsi, nous dormirons peut-être dans les ténèbres, mais illuminés, parce que Dieu est là. Nous passerons des rivières, des fleuves avec un bâton, mais nous reviendrons avec beaucoup de richesses. Et chaque fois que nous élèverons la tête, comme Jacob, comme Moïse et les Israélites pour voir Dieu, ou le serpent, ou Jésus-Christ qui a été élevé, nous verrons que la volonté de Dieu éclatera dans notre vie. Dieu nous bénisse surabondamment. Amen.